Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
IAFA chez vous, la paix chez vous, nous sommes samedi et vous écoutez Faso IAFA sur les antennes des radios partenaires du studio IAFA, le 100e numéro de votre émission aujourd'hui, et nous partagerons avec vous un modèle de résilience et de combativité d'une femme victime de viol. Quel est l'impact physique et psychologique de ce viol sur sa vie? Comment elle s'y prend pour surmonter ce traumatisme? Faso IAFA a libéré la parole d'une victime. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Comment reconstruire sa vie et ses relations après un tel traumatisme? La psychologue Rasmata Bationo donne des conseils à suivre dans quelques instants. En cas de viol, qu'est-ce que la loi prévoit? La juriste Sylvie Tarnagda nous le dira. Enfin, pour rendre digeste l'écoute, la dame à la voix suave, Enis Goula, assurera la rubrique Music Live. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Aimé Roland Ouédraogo. Le aimé des aimés, merci de rester connecté. Les ressortissants des zones touchées par le radicalisme sont exposés à d'autres types de dangers que sont le grand banditisme et la criminalité. Ça a été le cas de Nathalie, violée et tailladée par un proche déguisé en criminel. Outragée et déplacée interne, elle a trouvé refuge dans la ville de Dédougou où elle tente de surmonter ses peines. Comment se reconstruit-elle? Elle s'est confiée à Awa Muniratu Tankwano. On les suit.
Nathalie, comme nous l'appellerons, a été violée et défigurée par un proche déguisé en terroriste, puis forcée à partir de chez elle par des radicaux. Elle suscite peur et interrogation à travers son calme pétrifiant et son regard perdu. La jeune fille de 17 ans semble être sur ses gardes. Sous les coups de son agresseur, elle a perdu l'usage de son œil droit et plusieurs dents. Sous sa joue droite, on peut apercevoir une longue balafre large et profonde. Nathalie a le visage complètement amoché. Rassurée par la présence de sa mère, elle a accepté de nous raconter son histoire.
On est arrivé en brousse et nous avons commencé à couper le bois derrière une touffe. Le monsieur se dirigea vers nous et ma petite sœur me demanda si je le connaissais. Celle-là, il s'est approché de nous en enlevant son turban. J'étais en train de reculer en lui disant « Je te connais. Si tu me fais du mal, j'irai le dire au village. » C'est là qu'il a répliqué qu'il n'allait pas me faire du mal, que je suis sa nièce. Mais j'étais toujours en train de reculer. C'est là que j'ai trébuché et je suis tombée. À partir de cet instant, il m'a macheté et a fait ce qu'il voulait de moi. Je criais et je disais à ma petite sœur de fuir, mais elle est restée. Et quand il a fini de faire ce qu'il voulait de moi, il a poursuivi ma sœur et l'a macheté jusqu'à moi.
Si Nathalie, originaire de Bourasso dans la commune de Nouna, contrairement à sa petite sœur, a pu survivre au quotidien, elle dit vivre avec la hantise de la mort de sa sœur.
Quand je dors la nuit, j'ai très peur. J'ai l'esprit troublé et je sens la présence de ma sœur qu'on a machetée. Quand je ferme les yeux, je vois souvent une machette avec du sang et je crie pour que mon papa vienne m'assister.
Elle a également peur de faire l'objet de railleries. Elle avoue être maladive depuis le jour de son agression.
Il m'a frappé comme ça là. J'ai perdu des dents et j'ai un œil qui me fait mal. Et je n'arrive pas à bien voir. Mon cou aussi me fait mal. J'ai mal aux yeux, à la tête, aux orteils. Ma prière est que Dieu me donne la santé.
Nathalie n'est pas la seule à souffrir de cette situation. Sa mère, d'environ la quarantaine, est également une femme intérieurement brisée. Elle nous avoue avoir même tenté de se suicider.
Quand je m'assois et pense à mes enfants, même quand je suis parmi les gens, je ne fais que penser à eux et quand je mets le tout devant moi pour manger, c'est tout un problème. Je me perds dans mes pensées. Quand un des enfants s'éloigne un peu de moi, c'est une panique. Je me mets à les chercher. Je ne suis pas du tout tranquille les concernant.
Les deux femmes vivent toujours troublées par ces événements qui ont bouleversé leur vie. En attendant de voir un psychologue, elles peuvent compter sur le soutien de leur entourage. Aux autres filles, Nathalie conseille.
Si quelqu'un part en brousse, si tu vois une personne, il faut fuir. Je ne souhaite pas que cela arrive à quelqu'un. et que Dieu aussi nous préserve de ce genre de situation.
Momo et Nafou.
Nafou exprime à Momo son inquiétude au sujet d'une amie victime de viol par des groupes armés qui a été répudiée par son mari et rejetée par sa propre famille. Elle souligne que ces femmes déplacées subissent une double oppression, celle des attaques des groupes armés et celle de la domination masculine dans la société. On les écoute.
Bonjour Momo, comment vas-tu aujourd'hui?
Ouais, ça va, tu sais, la routine quoi. Et toi?
Momo, il y a quelque chose qui me tracasse.
Hey.
J'ai ma copine qui a été victime de viol par les terroristes.
Oh.
Et pendant qu'elle pleure cette douleur, son mari l'a repudiée. Et pour achever la bonne dame, sa propre famille l'a rejetée. C'est tellement triste et déchirant quoi.
Oh. C'est difficile à entendre. C'est très difficile.
C'est ce que moi j'appelle double oppression que subissent les femmes qui ont fui leur village à cause des attaques meurtrières.
Double oppression? Qu'est-ce que tu racontes encore, Nafou?
Thomas Sankara avait raison, Momo. Les femmes subissent à la fois les conséquences des attaques terroristes, mais la domination, l'oppression des hommes également.
Là, je ne te comprends pas.
Imagine, Momo, une femme déplacée, forcée de quitter son village en raison de conflits. Elle souffre économiquement et socialement, tout comme l'homme dans le même contexte. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire, ça.
La moitié de l'histoire? Comment? Tu m'embrouilles encore, Nafou.
Dans le même temps, Momo, cette femme, déjà opprimée par les attaques terroristes et leurs conséquences désastreuses comme le viol, par exemple, elle doit également faire face à des relations personnelles oppressives des hommes, de la tradition et même de la société.
C'est vraiment complexe ton histoire.
Comme tu comprends difficilement l'amour,
oui.
Je vais prendre un autre exemple.
D'accord.
Imagine une femme déplacée. Elle cherche du travail. Mais elle se heurte à des avances sexuelles des hommes, à des conditions de travail difficiles, tout en subissant des préjugés sexistes.
Ok. Je commence à comprendre. Mais où est la double oppression dans tout ça?
La double oppression réside dans le fait que parce qu'elle est une femme... Elle a été violée, Momo. Parce qu'elle est une femme, quand elle part pour chercher du travail, les hommes lui font des avances sexuelles. Parce qu'elle est une femme, la société lui interdit de se plaindre. La société gâte son homme. Parce qu'elle est une femme, Momo. Son propre mari l'opprime en la violentant, en réduisant sa liberté de faire ses propres choix.
Et c'est révoltant, je suis d'accord avec toi. En réalité, tes explications ouvrent les yeux, car on ne se rend pas compte de tout cela. Je dirais même que c'est plus que de la double oppression. C'est triple, voire quadruple oppression de la femme par les hommes et notre société.
Exactement, Momo. Il est temps de reconnaître ces silences oppressifs et de travailler ensemble pour briser ces chaînes. La lutte pour l'égalité ne peut être menée que lorsque toutes les formes d'oppression sont combattues, Momo.
Tu as raison, tout à fait raison, Nafou. Nous devons réparer cette injustice.
Absolument.
La fille qui barre.
Si vous vivez avec ce traumatisme, ayez le courage et la bravoure de Dame Nathalie et suivez aussi les conseils que nous prodiguera Dr Asmata Bationo, psychologue de formation, sur comment surmonter un traumatisme de viol. Elle répond aux questions de Awamoniratu Tankwano.
Bonsoir Dr Bationo.
Bonsoir.
Docteur, dites-nous, comment vaincre les traumatismes liés au viol?
C'est vrai que les situations de viol sont des situations qui sont traumatisantes pour les victimes. Et c'est deux fois plus traumatisant dans des contextes sociaux où c'est difficile d'en parler. Les familles vont souvent demander de taire parce que c'est la honte, etc. Et ça pose vraiment des problèmes au plan psychologique. Le viol laisse des traces indélébile sur la personne, la perte de confiance aux hommes s'il s'agit d'une fille qui est agressée, parce que l'inverse aussi existe. Hein. Il y a aussi il y a une baisse de confiance de soi aussi. Et des fois, bon, ça s'ajouter aussi des séquelles au plan physique. Et tout ça, ça cause vraiment d'énormes problèmes pour les victimes de viol.
Justement, en parlant de séquelles physiques, quand l'agresseur s'acharne sur la victime et lui laisse ces séquelles-là, comment est-ce qu'on peut accompagner la victime pour qu'elle ne perde pas confiance en elle?
Quelle que soit la situation, quelles que soient les séquelles, c'est bon que les victimes soient accompagnées sur le plan psychologique pour dépasser cette situation-là. Donc quand ça se surajoute aux séquelles psychologiques, des séquelles physiques, il peut être nécessaire donc qu'il y ait des réparations. Ça peut être nécessaire donc de voir des médecins. Mais je dois dire que la réparation physique n'est pas suffisante en elle-même même pour effacer le traumatisme. Des fois, ça va demeurer dans la tête malgré toutes les réparations physiques là. C'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important que les jeunes filles qui sont victimes donc, de viol puissent être accompagnées au plan psychologique, pouvoir reparler de ce qu'elles ont vécu, être accompagnées pour pouvoir sortir de ça, c'est une nécessité.
Et est-ce qu'il est possible de se reconstruire après un tel traumatisme?
Oui, je pense qu'on peut se reconstruire. Heureusement d'ailleurs qu'on peut se reconstruire. Et ça ne veut pas dire qu'on va oublier ce qui s'est passé, bien au contraire. Mais on peut se reconstruire, notamment si on est bien accompagné. Ça va permettre donc de pouvoir avoir une vie sentimentale, une vie sexuelle, une vie sociale. Et je dois dire que le rôle de l'entourage est très important dans ce type de situation. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'entourage a tendance à demander de ne pas en parler, etc. Alors que c'est important pour la victime que ce qu'elle a subi soit reconnu déjà. Voilà, deux fois, les gens recherchent aussi de la culpabilité quelque part. Est-ce qu'elle n'avait pas porté des trucs qui étaient légers, des tenues qui étaient légères? Est-ce que c'était pas court, etc. Rien ne peut justifier un viol. Voilà, dès que le viol survient, il faut vraiment travailler à ne pas culpabiliser davantage la victime qui n'est pas du tout responsable et qui n'est pas du tout coupable de quoi que ce soit. Des fois, l'entourage aussi est désarmé parce qu'il ne sait pas à quel point taper, à quel moment taper, etc.
Quel conseil avez-vous à donner à ceux qui vivent dans une telle situation et aussi à leur entourage?
Je dois dire que c'est nécessaire dans un contexte d'insécurité qui est la nôtre actuellement, d'essayer de sensibiliser les gens sur toutes ces problématiques-là. Donc, il ne faut pas hésiter à parler de la problématique pour que les gens puissent d'abord prendre un certain nombre de dispositions. Et puis aussi, par exemple, que des jeunes filles qui sont, par exemple, qui sont très jeunes, ne puissent pas se retrouver dans des endroits où elles sont isolées, où elles sont seules, où elles peuvent être l'objet donc d'agressions facilement, que si elles sont avec une adulte. Nos comportements doivent changer en fonction du contexte, et le contexte d'insécurité exige donc que nous puissions avoir un certain nombre de comportements de précaution et pour pouvoir donc être à l'abri de situations qui sont aux conséquences très très dommageables pour les individus et la société.
Docteur, je vous remercie.
Merci.
Kibar utile.
Heureusement que l'existence de la loi permet de maintenir l'équilibre entre nos droits individuels et nos obligations en tant que citoyens. Salamatou Diko s'est entretenu avec Sylvie Tarnagda, juriste de formation, qui nous donne des détails sur ce que dit la loi burkinabé sur le viol.
Bonsoir madame.
Bonsoir.
Alors madame, qu'est-ce que le viol?
On peut définir le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, quel que soit le moyen utilisé, que ce soit la pénétration vaginale, anale ou voilà par la bouche. Le viol, c'est cette pénétration-là à l'égard de cette personne qui n'est pas consentante. Le viol est un crime.
Si le viol est un crime, quelles sont les dispositions prévues par la loi?
Alors, au Burkina Faso, c'est le code pénal qui est applicable à ce crime et c'est l'article 533 qui parle précisément de ce crime. La loi dispose que en cas de viol, la personne qui a commis l'acte peut être punie d'une amende de 600 000 à 2 millions ou bien peut avoir une peine d'emprisonnement de 7 ans à 10 ans.
Mais est-ce que la peine varie selon la gravité de la situation?
Il y a des peines qui sont plus élevées. On peut prendre en compte la qualité de l'auteur du viol, la qualité de la victime. Si c'est par exemple une mineure, on peut prendre aussi le nombre de personnes qui ont eu à commettre l'acte. Quand je dis que le nombre de personnes à avoir commis l'acte, c'est plusieurs personnes qui ont été auteurs du viol à l'égard d'une seule personne. À ce genre de circonstances, la peine peut s'élever allant de 11 ans à 21 ans de prison et d'une amende allant de 1 million à 3 millions.
Et quelles sont les voies de dénonciation disponibles en cas de viol?
Ce qui est conseillé, c'est de partir à la police ou à la gendarmerie pour dénoncer. Mais il y a aussi le centre d'écoute de l'ABBF qui est situé au 1200, qui est là pour ce genre de problème. Il y a aussi l'association des femmes juristes qui a une structure à leur sein qui permet à ces personnes victimes de viol de venir dénoncer et avoir même un soutien psychologique. Il y a aussi TEMIS, notre structure, qui a un centre d'appel avec le numéro 3473, vous pouvez appeler, pouvoir dénoncer et au-delà, vous pouvez avoir un appui psychologique et même vous aider à pouvoir dénoncer ce crime devant les autorités compétentes.
En plus du numéro de TEMIS, est-ce qu'il y a d'autres numéros verts auxquels on peut avoir un soutien?
Oui, il y a le 80-00-12-87 qui est mis à la disposition des justiciables aussi pour pouvoir appeler et dénoncer ce genre de crime.
Mais pour dénoncer, quelle est la procédure?
Le premier élément dont on tient compte, c'est le consentement. La victime viendra expliquer. On verra s'il y a des séquelles physiques. Là, c'est plus visible. L'on verra, en fait, c'est par quel moyen la personne qui a intenté l'acte de violence est passée. Ça peut être par le chantage, ça peut être par des menaces, ça, tout ce qui va avec pour pouvoir contraindre ces dernières. Là, il en va de soi aussi que la personne accusée puisse voir l'avenir, expliquer. Donc, ça, au juge de voir, en fait, quelle est la part de vérité pour pouvoir voir s'il y a vraiment eu viol ou pas. Et je voulais aussi ajouter que, à l'issue du viol, si la femme tombe enceinte, puisque c'est quelque chose qui a été fait sans son consentement, elle peut, dans la limite de 14 semaines, demander l'interruption de cette grossesse, puisque c'est pas une grossesse qui a été voulue. Mais elle doit justifier, en fait, que cet enfant la résulte d'un acte de viol.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
À la découverte de ma localité d'accueil.
À la découverte de cette semaine, notre envoyé spécial Bukari Zwanga et son guide nous font découvrir la ville de Kungusi, un département et une commune urbaine du Burkina Faso dans la région du Centre-Nord. On les écoute.
Et bonjour monsieur.
Oui bonjour, moi je m'appelle Amidou.
Monsieur Amidou.
Je suis un déplacé en interne de Kungusi.
Tu connais quelques lieux que tu peux aller nous montrer?
Oui, en tout cas je peux te montrer quelques lieux que j'ai connus en tant que déplacé. Voilà, premier lieu là c'est à Richam, sur la voie de Richam, il y a des femmes qui sont à la recherche de l'or. Et puis deuxième point aussi, c'est le lac où les femmes en partent pour laver les habits. Voilà, en troisième côté maintenant, c'est le club Pemibé. Donc c'est les trois lieux que j'ai découvert en tant qu'un PDI.
Ok, mais premièrement, on va aller où?
Premièrement, on va aller dans les sites d'or là, sur la voie de Richam à Kungusi, au certain 5.
Ok, non, on va partir là-bas. Oui, nous sommes arrivés, mes amis. Nous sommes où maintenant?
Nous sommes dans les sites d'or, là. Voilà, là où les femmes sont en train de tamiser en les gravés pour chercher de l'or. Voilà, nous voyons qu'en tout cas, les femmes sont motivées en train de tamiser, voilà, de l'or, là. Voilà, de l'autre côté, on voit aussi les dames qui sont assises, fatiguées. Voilà, depuis le matin, elles sont en train de travailler. Bon, pas fini. En tout cas, oh, ça rigole, ça s'entend. Je vois qu'en tout cas, bon, ce sont les PDI et puis les communautés autres en tout cas, qui sont unis en tout cas, pour chercher de l'or. De l'autre côté aussi, on voit aussi les hommes en tout cas, qui sont là en train de creuser le trou pour chercher de l'or. Donc il y a différentes, en tout cas, chacun a son travail. Ouais, puisque les dames là, ne peuvent pas creuser jusqu'en profondeur, mais eux creusent en tout cas, ça ne dépasse pas au moins 50 cm comme cela, voilà, pour tamiser, pour pouvoir extraire de l'or. Mais chez les hommes, là, en tout cas, là-bas, il faut que ça soit en profondeur pour extraire de l'or. sinon c'est comme cela. Voilà, je vois aussi de l'autre côté aussi. Bon, tous les arbres, on voit les femmes en tout cas qui sont en train de en tout cas, s'efforcer en tout cas pour chercher de l'or là. En tout cas, elles font de l'effort voilà, pour ce travail-là.
Ok, merci M. Hamid. Maintenant, c'est par où?
Maintenant, nous allons aller au lac Bap. Voilà,
merci. Oui, nous sommes arrivés au lac. Qu'est-ce qu'on peut constater?
Ouais, ok. Je constate les enfants qui se lavent voilà, avec un seau d'eau. Voilà, je vois aussi au niveau du lac aussi, il y a des jardins. Voilà. Et puis aussi, on fait des jardins pour les légumes qu'on sort. Donc maintenant, on voit aussi les gens qui pêchent. Voilà, qui pêchent le poisson. Et nous voyons en tout cas des gens en tout cas, bon, qui se nagent. Alors on voit aussi les jardiniers aussi bon, qui tiennent les arrosoirs et puis en train d'arroser les légumes. Voilà, aussi on voit aussi beaucoup de choses. Voilà, les femmes PDI et avec les femmes autres aussi qui lavent les habits. Voilà, merci.
Ok, merci. Mais on peut partir où maintenant?
Nous allons partir au club PMIB.
Au club PMIB. Ok, merci. Oui, nous sommes arrivés au niveau des pémis. Tu peux nous expliquer maintenant comment c'est.
Oui, ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés au club PMIB. Voilà, voilà, c'est situé en tout cas vers l'école centre A. L'école primaire centre A, tout juste à droite.
Voilà. Mais tu peux nous donner l'arrivée des eaux.
Bon, aujourd'hui, je n'ai pas gagné, mais je vais donner. C'est 5, 16, 14, 6, l'arrivée du jour. Donc nous voyons après ça aussi, nous voyons qu'il y a des tailleurs à côté, il y a des gens qui vont, il y a une kiosque là-bas. Voilà, tout est animé. Donc on voit qu'il y a des gens en train de fouiller les bosses de demain et puis en train de m'analyser sur le programme de demain. Merci.
Ok, merci. Merci, M. Sardugo. Et bonne suite et à la prochaine, merci. Je vous remercie.
Studio Yafa.
Aujourd'hui, Musique Live reçoit pour vous Enes Goula, artiste, musicienne, auteur, compositeur. Elle fait du tradi moderne. Bonsoir, Enes.
Bonsoir.
Comment vous allez?
Ça va bien et vous?
Merci bien, je vais bien. Elle s'est fait accompagner par son pianiste Kone Mohamed Junior. Mohamed Kone, bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous allez?
Très bien.
D'entrée de jeu, Enes Goula, la bissa à la voix suave. Qui est vraiment Enes Goula?
Enes Goula a commencé la musique depuis toute petite, aux côtés de sa grand-mère.
C'est une histoire de famille.
C'est ça, exactement.
Okay.
Pratiquement tout le monde chante hein, dans la famille.
Parlez-nous de votre amour pour la musique. C'est vrai, on peut avoir un papa, une maman qui fait de la musique, mais...
Oui, avec le temps, j'ai participé à différentes chorales. Voilà, tout ça a renforcé mon amour pour la musique. J'ai fini par participer à une émission... Faso Academy.
Okay.
Et grâce à cela, j'ai eu la chance de rencontrer mon producteur.
Papus.
Zango.
Ok.
Et que je salue au passage.
Ok. Dites-nous, quels sont les messages que vous apportez à travers vos chansons?
Il y a différents messages. Par exemple, je fais déjà connaître la langue Bissa.
La langue Bissa.
Voilà.
Promotion de sa langue maternelle.
Exactement.
Ok.
Et je parle également de la vie. Voilà, je conseille la jeunesse voilà, à respecter les aînés, surtout. Voilà, il y a plusieurs thèmes
que vous abordez dans vos chansons.
Dans la chanson, oui.
Ok, nos auditeurs s'impatientent de vous écouter. Nous allons vous accorder un temps et vous demander de nous fredonner le titre Sounon.
Qui?
Ok, ça veut dire quoi déjà?
Sounon, c'est orphelin.
Ok, donc...
Voilà, en fait, dans la chanson, j'invite tout un chacun, tout le monde, ça veut dire si tu peux aider... Il faut les aider okay. Parce que voilà.
Donc, Sounon.
Sounon.
Ah, 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 ah.
kutum dunyanam anafobi antanyi badaye damen bumbaran bumbaran tanyi badabunafobi sunnawa sunnawani sunnawani akidam akidam pa Sunawani kidam kidam pa No minyikana ombachem kagasuye Na way, Barbara. Ibege, Ibecheni, moto, kam chichirki, mozi bada mozi. Gisa kam basu, mobagwani, kosi bada mozi. Ibe parzan, no mozo gargara fai, kosi bada mozi. Oui. Kosi bada mozi, hey sunawa, mau sunawani, sunawani, kidam kidam pa, sunawa, waku sunawani, sunawani, kidam kidam pa.
Quelle belle voix, quelle douceur.
Merci.
Félicitations à toi, Ulysse.
Merci.
En 2015, le Burkina Faso a commencé à connaître ses premières attaques occasionnant des déplacés internes. Ulysse, quel serait votre message à l'égard de ces déplacés?
Bon, c'est vrai que c'est écœurant de voir toutes ces familles quittant leur concession, voilà, leur région et leur village à cause de ce qui se passe. On est mieux que chez soi.
Bien sûr.
Voilà, donc franchement, moi, ma prière est que tout ça s'arrête. Vraiment, on est de tout cœur avec eux.
Okay.
Voilà.
Merci
beaucoup. Nous ne pouvons que prier pour eux parce que la situation, vraiment, c'est compliqué.
Vraiment, merci, puisque Dieu a exaucé nos prières.
Amen.
Comment on dit merci en Bissa?
Barka.
Barka. Ok, c'est le même Barka que les Mossi. Merci infiniment, Ulysse Goula, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci.
C'est la fin de cette émission. Vous pouvez réécouter des extraits de Moïna Fou, La Fille Kibar. Kibar utile à tout moment sur Viamon en appelant Orange au 3-2-1. Merci pour la fidélité constante. Je vous souhaite de passer un joli week-end.